on est ultra complexe, les enjeux sont complexes, les gens sont complexes, les postures aussi sont complexes. Alors, c'est pas vrai que tu peux être anti-américain ou pro-américain. Je trouve que le militantisme, ben, ça appartient à ceux qui aiment faire du militantisme. Moi, je suis pas une militante politique, surtout pas. Puis c'est plus les valeurs. Puis j'aime bien aussi m'adapter à où on est rendu, où on est rendu en 2025. C'est quoi les enjeux en ce moment? Puis ce qu'on pense aujourd'hui, puis ce qui est bon pour le Québec ou bon pour le Canada aujourd'hui, ça pourrait être différent demain. Ça pourrait être différent l'année prochaine. Les priorités changent, les enjeux changent. Ouais. Donc c'est important de rester ouvert.
Peut-être connaissez-vous Jacinthe Varel à cause de sa présence accrue sur X, où elle a une voix dissidente. Peut-être la connaissez-vous aussi parce qu'elle est présente dans les médias traditionnels, ce qui est assez rare d'ailleurs pour une voix comme la sienne, une voix un peu plus de droite. Elle est chroniqueuse nouveau, on l'a entendu aussi à RDI, et depuis peu, elle est rendue avec sa propre émission de radio à 99.5. J'ai eu le bonheur de jaser avec elle aujourd'hui. On a discuté de thèmes qui nous tiennent toutes les deux à cœur. Bien entendu, la liberté d'expression, on a parlé de politique et on a aussi parlé de féminisme. T'as un parcours quand même super intéressant, t'as touché à plein d'affaires. Les gens te connaissent peut-être pas tant que ça. C'est comme si t'es méconnu, mais t'es comme la présence entre deux chaises. T'es mainstream, puis t'es assis à ma chaise aujourd'hui à mon podcast. Fait que déjà, tu montres que t'es une voix différente. Moi, je t'ai découvert sur X, où t'as une voix quand même assez forte. Je trouve ça quand même intéressant sur X. Des fois, je regarde les gens qui commentent tes publications, puis je me dis, mon Dieu, pauvre Jacinthe-Ève, t'as comme... on dirait que t'es tout le temps en train de taper dans un nid de guêpe. T'as tout le temps comme du monde qui sont sur ton cas. Bon, parlons un peu de ça, comme ta voix est dissidente, mais t'es quand même entendu, on t'a entendu à RDI, à nouveau, maintenant t'es à Cube depuis le début de l'année, t'as une émission de radio, mais tes discours dérangent.
Ouais.
Comment se fait-il que tu déranges à ce point-là, mais que tu réussis à être entendu à RDI, par exemple?
Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça dérange tant que ça. Je sais pas, j'ai pas de réponse claire, mais ce que je sais, c'est que je suis pas dogmatique. Et je suis pas non plus une militante. Oui, j'ai été candidate aux élections provinciales en 2018 et en 2022, dans deux partis politiques. Mais il reste que je m'éloigne toujours de tout ce qui est dogmatique ou idéologique. Moi, mon moteur, c'est de suivre mes valeurs. Et mes valeurs, parfois, ben, je trouve une résonance dans certains partis, puis parfois dans d'autres partis. Et je suis pas du genre à penser qu'une école de pensée politique, parce que c'est cette école-là à laquelle j'adhère pas généralement, ben tout ce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas là-dedans.
Donc, bon, déjà, tu es très nuancée, ça veut dire.
Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est sûr que de temps en temps, je vais dire, ah, le Parti libéral a dit telle chose, je trouve ça génial. Ben là, les gens ne s'y retrouvent plus. Ils se disent, ben voyons, comment on peut dire que le Parti libéral est génial là-dessus? Mais c'est parce que si je trouve qu'ils soutiennent une politique publique ou ils se tiennent une idée qui a de l'allure, ben, puis qui est en cohérence avec mes valeurs, ben, je vais pas me fermer au Parti libéral ou à ce porteur de voix-là. Moi, j'aime pas personnaliser les débats ou les idées, puis dire, ben, vu que cette personne-là, je l'aime pas, ou vu que cette personne-là incarne une politique ou incarne quelque chose qui me déplaît, généralement, ben, tout ce qui va sortir de sa bouche ou tout ce qu'elle va écrire, ça sera disqualifié.
Oui.
Je ne disqualifie pas les gens sur la base de leur parti politique, leur idéologie, ou même leur histoire, ou ce qu'ils ont dit dans le passé, ou ce qu'ils ont fait. Et ça dérange,
ben,
c'est sûr.
C'est déjà exceptionnel que tu sois capable de faire ça, parce que moi, j'avoue, je t'écoute parler, je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça. mettons que à un moment donné, c'est vrai que je finis par tomber dans la partisanerie. Je pense qu'on l'est tous par rapport aussi à la politique parce que ça devient tellement émotif. Tu as donné les libéraux comme exemple. En ce moment, c'est l'un ou l'autre. Soit que tu adores les libéraux et tu penses que c'est les sauveurs de l'humanité, ou soit que tu les détestes et tu penses qu'ils vont mener le pays à sa perte.
Ouais. Non, mais là, je parlais des libéraux provinciaux.
OK, on parlait aux provinciales. OK. J'ai de la misère à trouver quelque chose de positif à dire.
Ah, oh, c'est perdu. C'est important de le dire.
Oui,
non,
d'accord.
Oui. Parce que, non, le Parti libéral, ça fait longtemps que j'ai dit que ça avait de l'allure ce qu'il faisait là.
Oui, OK, je comprends.
Du Canada, oui.
Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est... ouais, c'est difficile de trouver des bons coups. Mais quand même, je trouve bonne d'être capable de faire ça. Puis tu sais, souvent, ce que je remarque, parce que moi aussi, j'essaie de rester dans la nuance, les gens ne sont pas capables de nous recevoir avec nuance parce que eux, en sont tout simplement incapables. Ils voient la vie de façon, puis je ne veux pas juger, mais c'est quelque chose que j'observe beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens voient beaucoup de façon binaire. Fait que, tu sais, supposons que tu oses nuancer, mettons, une affaire, Donald Trump, c'est bien qu'il ait légiféré, exemple, que les hommes n'ont pas le droit de compétir dans des sports pour femmes. Là, tu dis ça, ben là, t'es une Trumpiste.
Oui, c'est ça.
Ça y est.
Ouais.
Il y a comme pas de demi-mesure.
Les gens voient en monde binaire. Mm-hmm. C'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non, c'est pro ou contre. Hein? On l'a vu beaucoup. T'es anti ou t'es pro, t'es anti ou t'es pro. Mais non. Moi, je trouve que c'est important de faire de la nuance, d'avoir de la nuance, de parler avec nuance, mais aussi de lire avec nuance, puis de, justement, donc de faire la part des choses et pas de catégoriser les gens, pas les cataloguer. C'est peut-être ce qui est difficile, c'est peut-être ce qui dérange de ma part, c'est que c'est difficile de me cataloguer.
Ah,
je pense que c'est difficile de me cataloguer.
Je comprends, oui.
Parce que, effectivement, parfois je dis A, d'autres fois je dis B, puis parce que le monde est complexe. Le monde est ultra complexe, les enjeux sont complexes, les gens sont complexes, les postures aussi sont complexes. Alors, c'est pas vrai que tu peux être anti-américain ou pro-américain. C'est
les gens voudraient mettre une couleur, t'as pas forcément une couleur, t'en as plusieurs.
Oui.
C'est intéressant, je comprends. C'est peut-être ça, effectivement, t'as raison, t'as peut-être... Parce que quand j'ai voulu te recevoir à l'automne, tu m'avais dit, il faut que je me concentre sur... Le monde me reproche de toucher à trop d'affaires puis d'avoir trop d'idées, ou je sais plus exactement comment tu l'avais formulé, mais c'est ce que tu viens de dire, puis tu m'avais dit, il faut vraiment que je me concentre sur de quoi je veux parler, finalement, dans la sphère publique.
Oui.
Est-ce que tu as affiné ça un peu? Est-ce que tu trouves que tu as réussi à faire l'entonnoir?
Oui, bien parce qu'on me disait, il faut que tu te trouves, faut que tu trouves ta cause, ou faut que tu trouves, faut que tu trouves ta couleur, mais ta cause aussi. Faut qu'on sache t'es qui, puis tu défends quoi.
Oui, tu peux pas avoir juste une cause.
Non, mais puis dans mon cas, ben j'aime penser ou j'aime être libre penseur. J'aime pas parce que je me suis présentée pour le Parti conservateur du Québec en 2022. Être constamment en appui à tout ce que fait le chef du Parti conservateur ou Éric Duhaime, c'est pas vrai. Je trouve que des fois, il fait des mauvais coups. Je trouve que des fois, il fait des bons coups. Puis le Parti québécois, c'est pas parce qu'il est souverainiste que, ou c'est pas parce que c'est le Parti québécois puis qu'il a tendance à être très à gauche que j'apprécie pas certaines de ses contributions, certaines de ses réflexions. C'est pas parce que c'est le Parti québécois que j'ai pas envie de participer à la réflexion du Parti québécois lorsqu'il est question d'indépendance. J'aime ça mettre mon grain de sel. Donc, ça fait que quand mon chef d'éragie fait des sorties sur X notamment, j'adore ce qu'il fait, Marc Tanguay, j'adore ce qu'il fait aussi. Donc là, les gens, ils se trouvent plus dans mes repères. Et ça fait que même les conservateurs, par exemple, qui seraient peut-être naturellement mon école de pensée, ben, me reprochent de ne pas être dogmatique et de ne pas être idéologique ou d'être une conservatrice... c'est
au
ça
sens du dictionnaire.
Oui, c'est ça. Ou qui ne sera pas militante. Mais moi, je trouve que le militantisme, ça appartient à ceux qui aiment faire du militantisme. Moi, je ne suis pas une militante politique, surtout pas. Puis c'est plus les valeurs. Puis j'aime bien aussi m'adapter à où on est rendu. Où on est rendu en 2025? C'est quoi les enjeux en ce moment? Puis ce qu'on pense aujourd'hui, puis ce qui est bon pour le Québec ou bon pour le Canada aujourd'hui, ça pourrait être différent demain. Ça pourrait être différent l'année prochaine. Les priorités changent, les enjeux changent.
Ouais.
Donc, c'est important de rester ouvert.
Mais là, tu parles beaucoup de la politique ici, provinciale. Tu t'es présenté pour la CAQ en 2018.
Ouais.
Explique-moi ça. C'était avant la pandémie. Là, d'ailleurs, tu as claqué la porte. J'aime le jeu de mots claque-cac. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, en 2018, j'étais journaliste dans la Naudière. Donc, je faisais de la télévision régionale, la télévision communautaire dans la Naudière. Et le secteur de journalistique, de couverture journalistique, était super intéressant parce que j'avais des grosses pointures en politique de tous les partis. J'avais Lise Thériault du Parti libéral qui était dans ma couverture journalistique, c'était dans la Naudière. J'avais Jean-François Lisée du Parti québécois, j'avais Véronique Yvon et j'avais François Legault, qui était chef de la coalition Avenir Québec, mais dans ce temps-là, il n'était pas premier ministre. Donc, on était en 2016-2017. Donc, cette couverture journalistique-là régionale, c'était de la télé régionale, mais malgré tout, c'était des enjeux avec des personnes influentes à l'Assemblée nationale. Et en couvrant la politique, dans mon parcours journalistique, je me suis rendu compte que je devenais de moins en moins impartiale. Et je me rendais compte que je commençais à avoir je commençais à avoir un parti pris. Je me sentais en conflit de valeurs parce que je me disais, si je suis journaliste, puis que là, je sens que j'ai tendance à couvrir d'un certain angle pour favoriser certaines politiques ou certaines personnes. Je le sentais que je glissais, puis j'étais rendue caquiste, tu sais. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer comme journaliste. C'est malhonnête.
Si seulement tous les journalistes avaient ce même cheminement intellectuel, on serait pas en place.
Je trouvais ça malhonnête. Et puis, dans les entretiens que j'avais avec François Legault, qui venait à mon émission, je le questionnais beaucoup sur les enjeux de santé, parce que j'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé pendant plusieurs années. C'est un domaine que je connais vraiment bien. Je suis très bien outillé. Donc, c'est sûr que dans nos entrevues journalistiques sur le réseau de la santé, François Legault percevait que j'avais quelque chose de plus qu'une simple journaliste qui s'intéresse au réseau de la santé. Il sentait que je connaissais vraiment bien le système en profondeur, mes questions étaient aiguisées, tout ça. Et il m'a dit, ça vous tente pas, Mme Arel, de vous présenter en politique, on a besoin de femmes, tout ça. Et je chantais déjà que j'avais un parti pris parce que j'aimais les réponses qu'il me faisait, notamment sur le réseau de la santé. À ce moment-là, ses réponses et sa vision pour le réseau de la santé étaient très intéressantes. Sa vision pour le Québec sur le plan économique était très intéressante.
Avant d'être élu, en fait, ce qu'il disait, puis ce qu'il a fait une fois qu'il a été élu, c'est complètement deux mondes.
Exactement. Donc moi, c'est sûr que j'ai eu cet appel-là de la vision de la CAQ, la vision que portait la CAQ en 2018 sur le plan économique, sur le plan de la gestion du réseau de la santé. C'est deux domaines qui m'appellent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup. Et puis, je voyais que les propositions avaient bien de l'allure. Donc, je me suis laissée tenter à me présenter avec la Coalition Unir Québec en 2018 avec cette vision-là, qui finalement s'est jamais articulée. Jamais, ni dans le réseau de la santé. Ce qui avait été proposé en 2018, c'est pas ce qu'on a fait.
Puis en plus, il y a eu une crise sanitaire sur les épaules où il aurait pu vraiment utiliser ça pour aller de l'avant avec une réforme qui aurait pu être tout à fait bénéfique au Québec. Ouais. Puis c'est vraiment pas ça qu'on a vu.
Non.
Donc, tu as été publiquement critique envers la CAQ à ce moment-là, puis tu t'es dissocié complètement du parti.
Oui, mais en fait, le temps que j'ai été candidate, je me présente...
T'es arrivée deuxième, c'est ça?
Je suis arrivée deuxième dans un château fort libéral en Montérégie. Suite à ça, j'ai intégré un cabinet ministériel. J'ai travaillé en cabinet ministériel pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. J'ai quand même travaillé avec eux pendant un peu plus d'un an, où j'ai bien apprécié mon travail, j'ai bien apprécié cet environnement-là. On était porté par l'espoir. La première année de gouvernance d'un gouvernement, on est porté par l'espoir. Dans la deuxième année, j'ai vu qu'on s'en allait peut-être pas nécessairement là où je voulais. On a traversé des crises et est arrivée la pandémie où là, je me suis vraiment reculée et je me suis dissociée de ce parti-là et qui m'a amenée à porter ma réflexion pour éventuellement, en 2022, trouver mon compte chez les conservateurs qui présentaient une vision économique qui ressemblait à ce que la CAQ avait proposé en 2018. Donc, pour moi, il y avait un filon conducteur sur le plan économique de m'en aller du côté du Parti conservateur.
Oui, c'était logique. Tu n'avais pas changé radicalement. Non. En fait, tu suivais la même, la même veine. On a parlé, quand on s'est parlé au téléphone, de la liberté d'expression. T'as eu, comme je te dis, t'as été entendu à RDI, t'as fait des débats à nouveau. On t'entend plus? C'est-tu moi ou on t'entend plus?
Je suis encore à nouveau. Je fais encore l'émission Les débatteurs de fin de soirée. Donc, il y a un bulletin de nouvelles à 22h à nouveau. On commente le bulletin de nouvelles de 22 à 22h30. Et à 22h30, il y a un grand débat où on est deux personnes pour, deux personnes contre, une question qui est posée. Donc, je participe encore à ça, mais à Radio-Canada, à RDI, j'étais panéliste, effectivement, à Zone Info pendant deux ans. Et puis, depuis février dernier, ils ont remanié l'émission, ils ont prolongé l'émission à une durée de 2 heures plutôt qu'une heure. Et ils ont ramené le nombre de panélistes à 2 plutôt que 3. Donc, en revoyant la formule, ils en ont profité pour dire au revoir à certains collaborateurs et j'ai fait partie de ces collaborateurs. En fait, on m'a jamais dit au revoir. On m'a dit qu'on essaierait une nouvelle formule et que je resterais une collaboratrice sur appel. Donc, je suis encore sur appel depuis le mois de février.
Au moment où on se parle, le téléphone pourrait sonner à tout moment. Je suis sûre que tu l'attends encore.
Alors, je regarde comment ça va, là, puis je me dis,
ils vont m'appeler.
Oui, c'est sûr. Ils ont besoin de ma voix.
Mais parlons-en de ça, justement. Comment ça que ce climat... Tu sais, moi, je trouve ça quand même particulier qu'on soit dans une démocratie, que les médias soient subventionnés par nous, les contribuables, et que toutes les voix ne soient pas représentées. C'est juste des voix de gauche, là, pour les nommer ainsi. Ça m'énerve un petit peu, les étiquettes gauche-droite, parce que, comme tu dis, je pense qu'on peut piger à gauche, à droite, dans plein d'idéologies et d'idées, mais Les médias sont très de gauche quand même, puis toi, t'es plus de droite, mettons qu'on dit ça de même. Fait que t'as une voix un peu comme celle de Christian Dufour, ou t'sais, des gens qui sont très articulés, intelligents, qui expliquent bien, qui vous argumentez bien vos idées, mais vous êtes plus à droite. OK, bon, ça n'en prend. Mais pourquoi on ne peut plus vous entendre? C'est, je comprends, c'est inquiétant.
Bien, c'est drôle que tu parles de Christian Dufour parce que quand je me suis mise à le croiser dans les studios de Radio-Canada à Montréal, les premières fois, je lui disais « Ah, oh, Monsieur Dufour, c'est un honneur de vous rencontrer, je suis tellement contente. J'essaie de faire ma marque, moi aussi, un peu à votre manière. Je pense que nos idées se ressemblent souvent. J'aime bien ce que vous faites, mais... » j'étais dans mes débuts quand je l'ai rencontré les premières fois, et je me souviens, je lui avais dit « je marche tellement sur des œufs parce que je suis consciente du privilège que j'ai d'avoir une tribune, j'adore ça, je veux être bonne, je veux être performante, je veux être fidèle à mes valeurs, à mes principes, mais en même temps, je sens que je peux pas tout dire, alors je suis un peu dans une forme d'auto-censure où je fais super attention, puis plus je fais attention, plus je deviens nerveuse parce que je contrôle chacun des mots que je vais dire. Et il y a un processus de réflexion qui se fait en double pendant que je parle. Et cette nervosité-là fait que je suis moins bonne. Quand je me laisse aller, puis que je suis naturelle, puis que je me dis, non, je me fais confiance, là, je sors pas n'importe quoi non plus quand je parle, ben là, je deviens plus naturelle, c'est meilleur. Je donne de la meilleure télé, mais en même temps, je me surveille plus. Comment on fait pour gérer ça? Puis il m'avait dit, ben, tu sais, moi, mon nom est fait, ma carrière est faite, je suis en fin de carrière, j'ai l'âge que j'ai. Moi, j'ai plus peur. Je me lance, j'ai plus peur. Mais il dit, je sais que vous n'êtes pas rendu là, Madame Harel, il faut que vous fassiez attention parce que si on tire la plug, on tire la plug. Donc, il m'avait quand même confirmé que ma crainte était réelle, fondée, puis que j'avais pas la même liberté de parole et la même liberté d'expression que lui parce qu'on n'était pas rendu à la même place. Et ça me porte à réfléchir depuis ce temps-là. J'y pense souvent, j'y pense régulièrement parce que c'est quand même... particulier, qu'on vive dans une démocratie où on dit qu'il y a de la liberté d'expression, qu'on est libre, que les médias sont démocratiques, qu'il y a une pluralité de voix dans les médias.
C'est
mais
ça.
Cette pluralité de voix, moi, je la vois dans un spectre très réduit.
Exactement.
Oui, il y a une pluralité, mais dans ce spectre-ci...
C'est contre l'avortement, ça va être, mettons, pour l'avortement... c'est genre, est-ce que c'est un médecin femme qui fait l'avortement ou un médecin homme? Là, ça va être un débat tellement pointu. On parle jamais des grandes questions, des grands enjeux, en ayant vraiment des gens qui apportent comme... Jamais on entend... J'ai pris l'avortement comme ça, là, mais jamais on va entendre une voix à RDI être pro-vie.
Ouais.
Je déteste l'expression pro-vie, mais mettons anti-avortement.
Ouais.
Mais pourquoi pas?
Ben moi, juste de dire... Je vais donner un exemple très concret. Juste de parler des mesures de l'administration Trump. J'ai jamais parlé de Donald Trump avec ce symptôme épidermique ou gastrique qui semble habiter tous les chroniqueurs lorsqu'ils parlent de lui. Moi, j'en parle pas avec émotion de Donald Trump. Je suis pas une pro de Donald Trump. Je suis pas du tout en accord avec ce qu'il fait, ce qu'il est comme personne, ce qu'il est comme individu. Sauf que j'ai ce détachement-là, très rationnel, de dire « c'est le président du pays voisin ». C'est pas mon oncle, c'est pas mon père, c'est pas mon chum.
Ouais.
Fait que là, ce qu'il a fait aux femmes, ce qu'il a dit aux femmes, comment il traite les femmes, ça m'appartient pas.
En même temps, on pourrait te reprocher de pas être assez féministe, non? C'est ça qu'on fait?
On pourrait, mais moi, je suis invitée dans des panels politiques pour parler de politique.
Ouais, ouais.
Je suis pas dans un débat de société, je suis pas dans une émission d'affaires sociales où on se met à parler d'enjeux sociaux, on parle de politique. Alors moi, j'analyse la politique.
Et
l'autre chose, c'est que si je me mets, parce que je tiens énormément à la cohérence des idées, et c'est ce qui m'allume le plus dans un débat, j'ai remarqué ça, là, à force de me voir des fois devenir passionnée, je me dis, voyons, qu'est-ce qui fait? Je m'attendais pas d'être passionnée dans un tel débat, puis je suis devenue enflammée. Comment ça que je suis devenue enflammée? C'est quand il manque de cohérence, là, ça vient me chercher.
Ben oui.
Quand le raisonnement est trop court ou quand il y a une incohérence, et là, ben justement, si je me mettais, par exemple, à mettre la lumière sur tout ce que je reproche à Donald Trump comme homme ou comme homme dans la façon qu'il se comporte avec les femmes, ben je vais le faire avec l'ensemble des politiciens. On va passer toute la classe politique. On va passer la classe politique.
Cohérent.
On va être cohérent, puis on va regarder comment se comportent tous les hommes en politique avec les femmes, quel est leur passé personnel, quelles sont les interactions qui les caractérisent.
Comme on a fait avec Trump, parce qu'il a été passé au ping fin, puis on a analysé. Puis ça donne qu'il y a une vidéo qui a été extrêmement virale, on l'entend « grab them by the pussy », mais... C'est moi, j'ai souvent entendu l'argument de monde qui défend Trump, qui disent qu'il n'est pas misogyne, dire entre hommes, on sait tous qu'on a déjà eu des propos comme ça envers des femmes.
Ouais.
Ça donne que là, il était filmé.
Ouais.
Mais tu sais, il faut arrêter. C'est-tu vraiment un misogyne? T'sais, en fait, c'est juste, on revient tout le temps à ça, mais ses politiques ne sont pas... Il a mis à la tête de positions très importantes ouais. des femmes dans son administration. Ouais. Tu sais, l'argument qui est misogyne, pour moi, c'est un peu boiteux.
Oui. Mais l'autre chose, c'est que moi, je ne veux pas prendre sa défense non
ouais,
plus. C'est plutôt, je suis là pour parler de politique,
ouais, ouais.
puis je l'analyse comme homme politique. Si c'était mon conjoint, il passerait un maudit mauvais quart d'heure.
Ouais, ouais,
si c'était mon fils, mon père, mon frère, mon beau-frère, alors on aurait une autre discussion,
ouais,
un autre
comprends.
Niveau. Puis là, vous verriez un autre Jacinthe-Ève. Mais moi,
ouais.
je suis invitée comme analyste politique. Alors, je comprends pas qu'on mélange les choses, mais juste
émotif.
Avec lui. Parce
ouais.
que, tu sais, s'il faut mélanger la vie personnelle, la vie professionnelle ou les valeurs morales d'un individu et sa gestion comme homme politique, comme élu,
ouais.
on va le faire avec l'ensemble de la classe politique partout
ouais.
dans le monde, au Québec, au Canada, partout dans le monde.
Ouais.
Et c'est pas ça que j'ai envie de faire. Puis je pense pas que c'est notre mandat non plus dans des émissions d'information d'actualité, mais d'affaires publiques.
Mm-hmm.
Donc, je reviens au point de départ parce que je me suis égarée, mais d'avoir cette posture-là où je ne deviens pas émotive quand je parle de lui, où je ne deviens pas dégradante ou méprisante,
ouais.
ou, ben là, ça donne l'impression déjà que je pourrais être pro ou que
ouais.
je pourrais être à sa défense, ce qui n'est pas le cas du tout, parce que je suis contre, je trouve que ce n'est pas une bonne idée pour son économie, par exemple, de
ouais.
mettre des tarifs.
Mm-hmm.
Mais en même temps, j'aime faire la distinction que c'est ses tarifs à lui qu'il impose à ses entreprises à lui.
Mm-hmm.
Il ne nous impose pas rien. Donc, l'utilisation des mots correctement, l'utilisation des termes, c'est important. Et quand je fais ça, ben ça dérange.
Ouais.
Donc, on n'est même pas dans l'avortement, juste sur des panels télévisés dans les médias.
Où t'es c'est pas émotive.
Où je suis pas émotive, où je fais la part des choses, où je rentre pas dans la panique parce qu'il a dit « bloodbath », il a utilisé le mot « bloodbath », puis que là, je dis « il va avoir un bain de sang », juste parce que je reste rationnelle, pragmatique,
ouais.
que je m'emporte pas, juste parce que ça devient pas, comme je l'ai dit, épidermique, gastrique,
mm-hmm.
juste parce que j'ai des réactions, je garde la tête froide. Ben déjà, ça donne un malaise sur les plateaux, ça donne un malaise de mes interlocuteurs.
Tu le sens, le malaise?
Je le sens, je
ouais.
le sens. Et je me dis, aïe, aïe, c'est très préoccupant, là, parce
ouais.
qu'on n'est pas dans quelque chose de très, très controversé.
Non, c'est ça. Puis en fait, ce qui me frappe pendant que je t'écoute parler, c'est que ce qui semble déranger de toi, c'est que tu es une fille nuancée.
Ouais.
Puis il me semble que ça devrait pas déranger d'être nuancée, mais de nos... Puis moi aussi, je me considère très
ouais.
nuancée
ouais.
dans la sphère publique, mais toujours en expliquant assez bien pourquoi je vais dire quelque chose. Si j'apporte une opinion, d'habitude, je la garoche pas de même. Mais ça, c'est comme si avoir des nuances, c'est plus possible. Il faut choisir son camp. D'ailleurs, je me
ouais.
suis fait dire ça par une amie de longue date qui m'a flushée dernièrement, en me disant, on est rendu à l'heure où il faut choisir son camp. Et là, elle pouvait plus être vue en ma présence.
Aïe,
parce que
aïe.
Je suis une indésirable.
Une infréquentable.
Exactement. Fait que, puis je pense que dans sa tête, j'étais une Trumpiste. Je sais pas ce qu'elle a pris ça, mais elle a dû voir ça quelque part. Parce que, comme tu dis, juste parce que je parle de Trump sans être en train de faire des convulsions.
Ouais.
Ben là, ça veut dire que je le supporte dans tout ce qui se fait, ce qu'il est. Alors que, tu sais, je le dis assez souvent, je suis la fan d'aucune politicien.
Ouais.
Je considère que les politiciens sont tous là pour servir leur ego. On n'est plus à l'époque de la démocratie au sens noble du terme.
Ouais.
Puis c'est ça que je trouve ça particulier, qu'être en nuance dérange. Pour moi, ça montre à quel point notre société va pas très bien.
Ouais. Ouais.
Puis c'est le constat qu'on a fait quand on s'est parlé au téléphone. Tu me disais, c'est alarmant ce qui se passe. Le climat de censure au Québec est très alarmant. Peux-tu nous parler plus de la censure que tu as vécue ou ce que tu vis? Comment tu la témoignes, cette censure-là?
Bien, je peux parler d'un exemple. Un autre exemple, j'ai été bannie d'une tribune que je nommerai pas, mais j'ai été bannie d'une tribune connue parce que j'ai diffusé sur ma plateforme X du temps où Robert Kennedy Jr. était candidat à la présidence américaine avant qu'il se joigne à Donald Trump. Donc, il y avait un candidat indépendant qui était Robert Kennedy Jr. Et dans les médias, on parlait que de Joe Biden à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore Kamala Harris dans le portrait.
Mm-hmm.
Donc, on parlait de Joe Biden puis on parlait de Donald Trump. Mais on ne parlait pas du troisième candidat qui était indépendant. Et quand je suis tombée sur sa vidéo promotionnelle pour promouvoir qui il est, pour se présenter aux électeurs américains. J'ai écouté ça, je pense que ça devait durer 20 minutes. C'est une vidéo promotionnelle politique, donc c'est sûr qu'une vidéo promotionnelle de candidat, hein, c'est nous-mêmes qui approuvons le contenu, puis c'est sûr qu'on on se présente bien, on se présente en notre faveur, puis je comprends, je conçois tout à fait qu'une vidéo promotionnelle, c'est pas un documentaire objectif sur la personne.
C'est une promo, là.
C'est une promo.
Ouais.
Et j'ai écouté ça, je trouvais ça intéressant, ça nous faisait découvrir un peu plus qui il est, cet homme-là, que je connaissais pas. Et j'ai publié cette vidéo-là sur ma plateforme X en disant « c'est intéressant ». Quelque chose comme ça. J'ai pas les mots exacts, j'aurais dû regarder, mais « à voir, c'est intéressant » ou
Sans plus.
Sans plus. Ça a dérangé profondément. Et ça a été perçu comme un endossement de tout ce qu'il est, ce qu'il incarne, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait dans
les
sa vie.
Les shots d'héroïne qui s'est fait tout.
C'est fini. C'est fini. Tu encourages un complotiste, tu t'associes à un antivax, tu fais de la désinformation. Okay. Et là, je me faisais accuser de faire de la désinformation, mais c'est sa vidéo promotionnelle. On est en campagne électorale aux États-Unis.
Ouais.
On suit l'actualité américaine et je fais simplement relayer une information. C'est pas tant une information que je partage aux gens qu'il y a un troisième candidat, qu'il y a une vidéo, puis c'est intéressant à regarder pour apprendre à connaître le personnage. D'ailleurs, en regardant la vidéo, si on a un œil et une oreille réellement critiques, mais non seulement... moi, il y a deux niveaux, là, quand je dis « regardez ça ». Regardez ça, ça veut pas dire « acheter ça ». Ça veut dire « regarder », tirer vos propres conclusions.
Ben oui,
vous
ça.
Pouvez vous-même regarder le 20 minutes puis dire « waouh, il revient encore sur telle histoire, donc il est biaisé, il est si... » Moi, je n'interviens pas dans les conclusions que vous vous posez, mais je trouve ça intéressant qu'on sache qu'il y a un troisième candidat indépendant, que c'est quand même le neveu de John F. Kennedy, puis que il y a la famille Kennedy. Ça nous, nous amène à faire des recherches, à regarder un peu, puis à s'éduquer si on n'est pas de la génération qui a suivi ça ou si on ne s'est pas intéressé à la politique américaine. Parce qu'on va se le dire, jusqu'à cette campagne américaine-là, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique américaine. Ouais. C'est nouveau pour eux dans leur vie. Mais bon, donc je me suis fait accuser de supporter l'ensemble des idées qu'il a véhiculées.
Et pas par ta foule qui te suit sur X, mais bien de la personne que tu ne nommes pas, qui était un employeur.
Un employeur, et qui m'a dit « moi, je peux pas continuer à te recevoir considérant que ben tu fais de la désinformation, tu participes à de la désinformation, tu t'associes à un complotiste, c'est grave ce que tu as fait, c'est très grave ce Puis en plus, faut savoir que maintenant, moi, je suis pas journaliste, là. Je suis
chroniqueuse.
Je suis chroniqueuse. Puis une chroniqueuse, on s'attend qu'elle ait une opinion.
Ouais.
On s'attend qu'elle ait des points de vue. Et les points de vue sont nécessairement teintés de nos biais. De toute façon, je crois pas à ça, l'objectivité. Tout le monde a des biais. On a toute une histoire personnelle. On a un vécu. Tout le monde vote, où il y a beaucoup de gens.
Oui, c'est ça.
Les gens qui se disent neutres et objectifs, ils votent,
là. C'est facile de dire Anne-Marie Dussault, c'est pour qui qu'elle vote. Je veux dire, on le sent, son biais, là.
Ça vote, ces gens-là. Et c'est facile à deviner, pas souvent, pour qui ils votent.
Ouais.
Donc, moi, j'aime pas l'hypocrisie, je le dis. Effectivement, j'ai des biais, mais comme tout le monde a ses biais. Et c'est pas parce que je publie quelque chose sur les réseaux sociaux que j'adhère à tout ce que cette personne-là a fait, a dit ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je trouve ça, moi, j'aime ça qu'on s'ouvre à l'information, qu'on s'ouvre aux idées,
c'est
important.
Mais en fait, le crime que tu as commis, ce que j'entends, ce qu'on te reproduit, c'est que tu avais commis le crime de la désinformation médiatique, mais le crime, je pense, le plus grand qu'on te reproche, c'est d'avoir parlé de quelqu'un qui est jugé indésirable.
Oui.
On ne peut pas parler de Robert Kennedy Jr.,
non.
On ne peut pas parler de Donald Trump ou Elon Musk en bien, ou même de façon neutre. Si t'es pas là pour y cracher dessus puis dire que c'est un fou furieux contre l'humanité, tu fais partie du problème.
Oui, exactement.
Et c'est ça qui est vraiment, moi, qui m'alarme au plus haut point en ce moment, parce que j'ai de la difficulté, même, tu sais, là, je fais une entrevue avec toi, mais j'ai fait très peu d'épisodes depuis que je suis revenue de voyage. Ça fait quand même un mois et demi qu'on est revenu, deux mois quasiment. Non, un mois. Anyways. Mais parce qu'il y a personne qui veut venir à mon micro.
Ah, ouais.
Il y a plus personne qui veut me parler. Puis tu sais, je suis pas... J'ai reçu Oliver Stone quand mais non, c'est
non,
ça.
Non, t'es très nuancé, tu sais.
C'est ça.
Oh, oui. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment préoccupant. Et le fait qu'on n'en parle pas aussi de ça, puis qu'on on nie le problème, on dit que ça n'existe pas, c'est aussi préoccupant. Cette personne-là qui me reprochait d'avoir fait ça, cette désinformation-là, alors que je suis chroniqueuse, puis que mon fil X est rempli d'opinions, là. C'est rempli d'opinions, c'est rempli... Et sur cette vidéo-là, je le répète, j'ai pas donné d'opinion. mais de toute façon, même si j'avais donné une opinion, je comprends pas pourquoi on m'accuse de faire de la désinformation. C'est, j'ai pas commencé à dire à regarder tout ce qui que c'est dans cette vidéo-là, mm-hmm. je suis d'accord avec ça, puis cet homme-là, depuis qu'il est au monde, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tous les combats qu'il a menés, j'endosse ça, je veux dire.
Mais c'est deux poids, deux mesures, parce que si tu avais partagé, exemple, dans un autre contexte, en ce moment, on est en période électorale, tu aurais partagé la campagne promotionnelle de Mark Carney.
Ah oui, là, ça serait correct.
Parfait.
Ben oui.
Aucun problème.
Oui, absolument.
Mais si tu commences à analyser sa relation aux femmes, par exemple, on dirait c'est quoi ton problème?
Oui.
On ne trouvera aucun pouls à Mark Carney parce que là, ça fait nous des complotistes. Ou je sais pas, j'imagine qu'on appartient à la complosphère si on parle du fait qu'il a été à Bilderberg puis toutes ces choses-là. Fait que tu sais, c'est aussi le deux poids, deux mesures où il y a des politiciens chouchous parce que les médias nous ont dit que c'était nos chouchous. Parce que Mark Carney, il y a comme 5 minutes, personne ne savait c'était qui. Mm. Vraiment. Mm. On n'avait jamais entendu. À moins que tu sois vraiment comme full au courant de l'économie.
Ouais.
Tu sais, il n'y a pas grand monde qui savait c'était qui, Mark Carney. Mm. Puis là, maintenant, les gens sont comme en amour avec. Fait qu'on l'a créé toute pièce. Ouais. Puis moi, c'est ce que je dénonce depuis le début. Là. C'est comme une campagne comme on nous a fait avec Kamala Harris.
Même affaire. C'est notre Kamala Harris. Ouais. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs semaines. Mark Carney, c'est le Kamala Harris du Canada.
Ouais.
Clairement. On est en train on nous a formé un personnage avec lui. On nous a formé le candidat idéal, solution idéale.
Exact. Bon. Au méchant Trump.
Oui, absolument, oui. Mm-hmm. Oui, parce que ça prenait un ennemi pour le mettre en valeur, ça prenait un adversaire pour le mettre en valeur, ça prend un conflit, ça prend une crise pour nous protéger, mm-hmm. puis nous apporter un sauveur qui va nous protéger.
Mark Carney, notre sauveur. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un sauveur en politique?
Non. Non. Mm-hmm. Non, et c'est ce qui fait peut-être aussi que je déplais même à ceux qui auraient tendance à vouloir me suivre dans toutes mes idées. C'est ce qui fait que certains conservateurs ne me trouvent pas assez conservatrice. Mm-hmm. Je ne suis pas en amour avec Pierre Poilievre, je ne suis pas en adoration avec Pierre Poilievre, tout comme je ne le serais pas de n'importe quel chef.
Ouais.
Je ne suis pas non plus du clan Jean Charest, je ne suis pas du clan de personne, ce n'est mm-hmm. pas compliqué. Je suis vraiment un esprit libre. Donc, ouais. pour moi, j'apprécie ce que les politiciens tentent de faire, j'apprécie ce qu'ils essaient d'apporter à notre société. Mais je deviens jamais dans l'émotion, dans l'adoration avec personne. Ouais. Donc, ça va autant pour les gens à qui j'aurais des reproches à faire.
Mm-hmm.
Hey, François Legault, en ce moment, on vient de subir une décote au Québec. C'est atroce.
Mm-hmm.
Mais vous me verrez jamais, vous m'entendrez jamais, vous me lirez jamais dire des atrocités sur François Legault.
Non.
Je veux dire, on l'a élu, on est rendu dans la situation où c'est. C'est inacceptable, faut changer ça.
Mm-hmm, mm-hmm.
C'est froid de même.
Ouais.
Mes émotions, je les garde. Peut-être que j'en vis assez dans ma vie personnelle. Je suis maman de 3 enfants.
Ouais, c'est ça.
Les émotions, ça va pour la maison, pour tes relations personnelles. Mm-hmm. Là, on fait de la politique.
Mm-hmm.
C'est sûr que ça vient chercher nos valeurs, puis nos valeurs, ouais. c'est proche des émotions, puis on vit des trucs. Mais il reste que... c'est ça. Peu importe quel personnage politique, pour moi, c'est une personne qui joue un rôle, mm-hmm. Un rôle dans un carcan idéologique ou un carcan militant,
ouais.
qui fait de son mieux, puis il y en a beaucoup qui se trompent, puis la plupart se trompent, la plupart font des erreurs, la plupart se font prendre dans un système aussi qui les gangrené. Tire vers le bas, gangrené.
Ouais.
Donc, encore là, je fais la part des choses.
Ouais.
Je dirais jamais « Ah, François Legault, ta-ta-ta-ta-ta-ta!
Mm-hmm. »
Non, non. Ou même le réseau de la santé. Il y a un ministre actuellement, Christian Dubé, ministre de la Santé. Tout ne repose pas sur Christian Dubé. C'est pas lui qui est pas bon nécessairement ou absolument ou exclusivement.
Ouais, non,
parce que si on enlève Christian Dubé et on me met à sa place, là, je pense pas nécessairement que je réussis à faire ce que je veux faire. Est-ce que je fais mieux? Peut-être, sur certains aspects. Mais le système est lourd, la bureaucratie est lourde, il y a des enjeux, tout est complexe.
Ouais.
Ça revient à ce que je disais au début, tout est complexe. C'est pas vrai que, même moi, avec la connaissance que j'ai du système de santé, on me met à la tête du réseau de la santé, puis tout d'un coup, je sais exactement ce qu'il faut faire, puis ça va se passer comme je le pense. Il y a des syndicats, il y a des corporations professionnelles, il y a des ordres professionnels, il y a des gestionnaires qui tiennent à leur poste, à leurs conditions de travail, il y a des médecins, il y a des médecins spécialistes, il y a des fédérations, il y a les patients, il y a ce que ça coûte, il y a la pression... des contrats qu'on a signés, les contrats d'approvisionnement avec les fournisseurs en informatique, les fournisseurs en médicaments, les fournisseurs en pansements.
Ça ne se change pas comme ça, finalement.
Ben non!
Donc,
même si je pense là, que c'est bien facile, faisons plus ci, faisons moins ça, c'est complexe.
Mm-hmm.
Donc, ça amène aussi moi-même à avoir une analyse où je dis souvent, ça n'a pas de bon sens, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en même temps, jamais je vais personnaliser puis dire c'est un individu qui porte ça sur sa charge parce que c'est trop complexe.
Oui. Mais en fait, c'est parce que c'est le visage qu'on voit, fait que c'est comme facile de... Puis aussi, je pense que la compréhension que tu as présentement du système politique, la majorité ne l'a pas. Ouais. Moi-même, je pense être plus politisée que la moyenne des gens. Puis, c'est plus avec Trump, mettons, que j'ai commencé à comprendre comment Trump avait pas été capable pendant son premier mandat de faire tout ce qu'il voulait parce que l'administration ne lui était pas favorable puis lui mettait des bâtons dans les roues. On vient de le voir encore juste dans l'exemple de Epstein avec le FBI qui n'ont pas donné des documents même s'ils l'ont demandé. Donc, il y a comme, au sein même du gouvernement, il y a des agents
des
indépendants qui font leur truc, c'est ça, et qui sont probablement qui servent... Pas forcément le président des États-Unis, on sait pas, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est ça, quand tu commences à comprendre à quel point c'est complexe, là, ça devient plus facile, mais c'est comme si à la télévision, on nous dépeint toujours une version un peu cartoonesque de ce que c'est la politique. Ouais. C'est comme... c'est pas la réalité, c'est juste ça. On est dans un théâtre.
Ouais.
Puis toi, t'as la chance de mieux le comprendre parce que t'as travaillé dedans. Est-ce que t'as l'intention de continuer d'être active en politique?
Je dis pas jamais, parce que on sait jamais, mais c'est sûr que la place où je suis en ce moment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup pouvoir être libre de ce que je dis pas, ce que je garde pour moi. J'aime beaucoup cette liberté de parole que j'ai, que j'aurais pu si je me relançais en politique, parce qu'il reste une ligne de parti à suivre.
Ouais.
On doit se rallier. Y a des jeux de coulisses en politique. Y a souvent du sabotage à l'intérieur même d'un parti politique. Y a des connivences, il y a des alliances, il y a des préparations pour une autre course à la chefferie, si éventuellement le chef actuel se plante. Il y en a qui souhaitent qu'ils se plantent parce que donc il y a des clans qui se créent. Fait que toute cette magouille-là, je l'aime pas. Toute cette contrainte-là aussi, par exemple, en ce moment, le Parti conservateur du Canada, moi, il me déçoit beaucoup sur le plan des contre-tarifs. Ben, si j'étais candidate au Parti conservateur du Canada en ce moment, je serais obligée de dire aux gens « Hey, dollar pour dollar, ou faut faire des contre-tarifs, il faut se tenir debout, il ne faut pas se laisser faire. » Je serais obligée d'adopter ces lignes-là de communication auxquelles je ne crois pas du tout. Donc, c'est sûr que la posture dans les médias, je la préfère parce que je suis capable de dire « Pour le moment, le Parti conservateur, je suis en accord avec A, B, C, D. Je trouve que c'est la plateforme électorale la plus prometteuse pour le Canada en ce moment. Il reste que, en ce moment, dans leur plateforme, ils font erreur. Ils errent, selon moi, en imposant des tarifs aux entreprises canadiennes qui veulent importer des produits américains. Parce qu'en plus de ça, on ne sera pas capable de mesurer les impacts des tarifs de Donald Trump puis de nos propres tarifs. Parce que si on met tarifs américains et tarifs canadiens, les impacts des pertes d'emplois, tout ça, comment on démêle les impacts des tarifs américains, des impacts causés par nous-mêmes, notre décision d'imposer des tarifs aussi aux entreprises canadiennes. Tout ça a été amalgamé dans cette campagne-là de manière magistrale par tous les partis politiques. Et ça, ça me déçoit beaucoup. Mais vois-tu, je pourrais pas dire ça si j'étais en politique active. Là, je peux le dire, il y a des conservateurs qui vont me détester pour l'avoir dit. Et les libéraux m'aiment déjà pas. Et les bloquistes m'aiment déjà pas. Donc, finalement, c'est peut-être aussi ce qui explique ma posture aussi difficile. Parce que j'ai pas un clan de protection. J'ai pas de filet de protection autour de moi. J'ai pas un clan qui va me protéger qui va venir me défendre parce que j'ai pris cette position-là risquée, mais je l'aime, cette position-là.
Elle te convient?
Elle me convient.
Oui, OK. Parce que ça, dans le fond, on sait tous, on l'a vu dans les dernières années, le clan, l'appartenance à un clan, c'est extrêmement important pour l'humain. Puis là, tu reconnais que tu n'as pas de clan. Est-ce qu'il y a des moments où tu trouves que c'est vraiment difficile? Je veux dire, tu vis quand même beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, je me permets de le dire, parce que je l'observe, je suis frustrée à ta place. Puis moi, j'ai un grand apprentissage d'apprendre à m'en foutre, là, de pas trop lire mes commentaires. Puis comment tu vis ça?
Je trouve ça dur. Puis même si je dis que je suis bien dans ce rôle-là, puis je suis en harmonie avec moi-même, être en harmonie avec soi-même, puis être bien avec nos valeurs, ça nous, ça veut pas dire qu'on est dans le confort. Donc,
t'es quand même dans un combat.
Oui. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable du tout. Et je me demande toujours ce stress-là que ça m'impose, parce que ça m'impose un stress. Je me dis toujours, c'est quand la dernière fois où... quand est-ce qu'on va fermer le micro puis qu'on va dire, là, c'est ici aussi, c'est fini. Ici
tu aussi, sens que tu as l'épée de Damoclès en haut de ta tête
oui,
tout le temps.
Ben oui, wow. Parce que j'ai pas mon clan... pro-souverainiste autour de moi avec ma chaîne, ma chaîne souverainiste, par exemple, ou ma chaîne libérale. Donc, c'est sûr qu'en m'excluant comme ça d'une appartenance, mm-hmm. je me mets en danger, puis c'est pas agréable. Mais c'est là où je me sens le plus libre. Ouais. Et pour moi, la liberté, c'est une valeur fondamentale. C'est un mot qui a été galvaudé énormément, mais j'ai appris à reconnaître ça chez moi, ce sentiment d'être libre, mm-hmm. libre de penser ce que je veux, de dire ce que je veux,
ouais.
d'être ce que je veux, mm-hmm. et de...
C'est l'authenticité.
Oui, c'est ouais. ça. Donc ça, ben ça vient surpasser les inconvénients, même si les inconvénients sont nuisibles et désagréables tout le temps.
Tout ça, il n'y a pas un petit moment qui arrête.
C'est pas vrai que je suis au-dessus de ça, puis... Non, absolument pas.
Mais tu vois, je pense un peu à Mathieu Bock-Côté en t'écoutant, parce que Mathieu n'est pas politisé, mais il a une grande gueule, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Pourtant, lui aussi, il a énormément de haine, là, quand je lis les commentaires, c'est assez intense. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'aiment, Mathieu. T'sais, est-ce que tu penses qu'éventuellement, tu vas finir par vraiment comme consolider le monde qui comprenne tes couleurs puis qui vont créer cette famille-là? Est-ce que tu sens qu'elle se crée, qu'elle se bâtit un peu alternativement sur Internet?
Je le souhaite.
Ouais.
C'est ce que je souhaite. Ouais. Je souhaite que... Parce qu'on m'a souvent reproché... que c'était pas clair ce que je représentais ou que je me...
Ces reproches-là venaient de qui exactement? Tes employeurs ou du monde qui t'écoute? Ou ça vient d'où, ça?
Ben, des gens qui veulent mon bien, des gens autour de moi, d'autres chroniqueurs, des gens du milieu qui me disent « Parce que, tu sais, t'es dur à cerner, on sait pas exactement, t'es à droite, mais t'es pas vraiment à droite, t'es à droite des fois, mais t'es conservatrice, mais t'es-tu indépendantiste, t'es-tu nationaliste? » C'est drôle, tu commandes souvent les publications de Paul-Saint-Pierre Plamondon, t'as l'air aimé ça. Finalement, tu viens de ramasser le Parti québécois. Comment ça, tu viens de ramasser? C'est pas clair. Tu dois... Donc, des espèces de faiseurs d'images, les gens qui travaillent autour de moi sont souvent en relations publiques. Donc, ils sont bienveillants à mon endroit. Puis, ils me disent, tu sais, tu dois travailler ton image. Puis, j'ai pas envie de travailler ça. Je me dis, mais non, mais je vais rester moi-même.
C'est ça.
En espérant que ça donne quelque chose. Puis, si ça donne rien, puis si les gens se reconnaissent pas là-dedans, tant pis.
Ah, c'est la
mais
seule
faut formule. Que je sois fidèle à moi-même. C'est certain.
Perdre complètement, oui. c'était de plaire aux autres.
Oui.
Tu sais, quand j'étais en musique avant, j'ai une carrière en chant, puis je me faisais dire ça parce que j'ai étudié en jazz, mais mes influences étaient rock. Puis c'est comme si là, le monde disait, on sait pas, mais tu veux faire du pop, mais là, le rock, puis là, comme tu chantes du Ella Fitzgerald, fait que tu sais, ça marchait pas. Puis je me disais, mais j'ai-tu le droit de faire ce que je veux? Si j'ai envie de faire un show de jazz un soir, puis qu'à un moment donné, je fais une autre affaire qui est pop. Mais c'était pas possible. Ça se pouvait pas.
Ouais.
Puis ça a sûrement joué contre moi. Puis éventuellement, c'est sûr, bon, j'ai abandonné le music business, mais je comprends à fond là, cette espèce de... Puis moi, tout ce que je voulais, c'était faire des trucs qui me plaisent.
Ouais.
Tu sais, si tu fais pour toujours plaire aux autres, ça ne peut que mener à la perdition totale puis une dépression nerveuse. Là, il n'y a pas d'autres issues.
On peut pas faire ça. Il y a des gens qui aiment ça tout caser, mais si on ne fit pas dans une petite case, ben on est nous-mêmes. De toute façon, à l'ère où on valorise tellement l'unicité, la singularité des gens, chacun est différent, ben c'est ça. Il faut s'accepter dans nos propres différences, nos propres contradictions aussi parfois.
Oui,
puis c'est là où j'ai... Là où moi, quand je parle de « je me mets en danger », c'est que c'est mon gagne-pain. Et je ne suis pas indépendante de fortune.
Ouais.
C'est sûr que ça apporte une pression constante. Je me dis souvent, si j'étais riche, je serais vraiment bien.
Ouais.
Là, je m'en foutrais. Dites ce que vous voulez de moi.
Ouais.
Pensez ce que vous voulez. Parce que ça m'affecterait beaucoup moins.
Ouais,
là, c'est mon revenu, c'est ma carrière, c'est ce que je fais dans la vie.
Toujours aux échecs tout le temps.
Absolument. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça me met sur une posture très, très vulnérable.
Je comprends.
Et j'envie beaucoup les gens par exemple, j'ai aucune idée de leurs finances, là, mais les gens qui ont avancé dans le chemin de la libre pensée. Par exemple, je reviens sur Christian Dufour, mais qui ne dépendent plus nécessairement de leur micro pour vivre.
Oui, ou il est retraité.
Exactement.
Il fait ça parce qu'il aime ça. Mais...
Oui.
Mais en fait, dans les dernières années, j'ai beaucoup entendu de gens qui sont venus à mon micro parler et qui me disaient tous « je peux parler parce que je suis retraité
».
C'est Christian, professeur Christian Perron, je veux dire, il y en a tellement, là, je vais pas conseiller. Parce qu'il disait « je suis conscient ». Que je ne pourrais pas parler si j'étais en début de carrière, que c'était pour critiquer le vaccin ou critiquer les mesures sanitaires, mais tu peux pas, en fait. Puis c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est me dire Comment ça qu'on peut plus être critique? Comment ça qu'on risque notre job à chaque fois qu'on parle? Mmh. C'est grave, là, risquer son emploi, c'est pas rien, là. Ouais. Puis en plus, toi, tu me disais, t'es monoparentale.
Oui.
T'as 3 enfants. Ouais. Je te lève mon chapeau. Mais c'est quand même à prendre en considération. Selon moi, les réseaux sociaux amènent la possibilité quand même de trouver son public, mais il y a toute la question des algorithmes aussi qui vont moins nous référencer parce qu'on dérange. Moi, je le vois énormément, là, ces temps-ci particulièrement. Fait que tu sais, il y a quand même des défis, même si on est plus libre, je trouve. Là, je me sens, je suis heureuse de pouvoir faire le podcast dans mon sous-sol avec les moyens que j'ai, mais au moins, je peux dire ce que je veux, je reçois qui je veux. Puis après, ben tu sais, je veux dire, c'est ça, là, ça m'appartient, j'endosse ou j'endosse pas. Puis c'est pas parce que tu t'assois à mon micro que je vais endosser 100% de tout ce que tu dis. Oui. Parce que ça aussi, des fois, les gens font cet amalgame-là. Oui. C'est pas parce que tu vas à nouveau que tu endosses 100% de tout ce qui s'est dit à nouveau dans l'histoire de la chaîne. Là, à un moment donné, il faut arrêter le manque de nuances, tout le monde. J'aimerais ça qu'on parle de féminisme. Mm-hmm. On est des deux femmes, puis on vit des choses particulières. C'est juste fou, là, ce qui se passe dans le monde de la femme. Oui. On efface la femme à grands coups de progrès, puis de vivre les femmes.
Oui.
Que se passe-t-il?
Hey, c'est une grande question et j'ai l'impression qu'il y a peu de femmes qui sont là pour poser cette question-là, défendre les préoccupations autour de ces questions-là. C'est particulier. Elles sont rares les voix de femmes qui osent s'affirmer, affirmer un féminisme positif. Et le féminisme a eu très longtemps mauvaise presse. Je pense qu'il a encore mauvaise presse. Oui. Moi, j'élève 3 enfants à la maison, dont 2 ados, là, une fille et un garçon qui s'obstinent énormément sur la masculinité, le féminisme. Ouais. Ah, c'est fou. Je suis témoin de cette génération-là
qui va
sur TikTok, qui écoute toutes sortes de vidéos où ma fille est ultra féministe, puis elle confronte son frère.
Mais c'est quoi féministe? Genre, je me promène les seins nus dans le métro ou féministe? Non, parce féministe. Plus, c'est quoi être féministe? De
oui, exactement. Exactement. Ouais. Donc, des fois, ils s'obstinent sur le féminisme. Okay. Et là, je réalise, ils n'ont même pas la même définition du féminisme. Uh-huh. Ils n'ont pas la même perception du féminisme.
Ouais.
Ma fille, la définition qu'elle a, et c'est la même, je partage la même, puis c'est étrange parce qu'on n'a jamais parlé, elle et moi, de féminisme.
Okay.
Mais à un moment donné, elle m'a dit, moi, tu sais que je suis féministe, maman? Je fais, oh, ouais. Ben, t'es élevée par une mère seule.
Ouais.
Peut-être que ça a eu ses impacts sans même que je te parle. T'as eu des exemples. T'sais, souvent, on dit qu'on enseigne à nos enfants sans même le savoir.
Dans nos
actions. Ce qu'on essaie de leur enseigner ou leur inculquer, ça marche pas, mais dans nos actions, puis ce qu'on est comme personne, dans l'exemple qu'on donne, là, on leur lègue énormément. Donc, je pense qu'elle a tiré de ça. Mm-hmm. Mais c'est un féminisme de puissance, de pouvoir, d'indépendance, de liberté. Moi, c'est ça, le féminisme, c'est les femmes doivent être libres, doivent être fortes.
Indépendantes d'un homme, c'est ça que tu veux dire par indépendance?
Bien, ça n'a pas rapport avec l'homme. C'est l'indépendance tout court, l'indépendance d'esprit, l'indépendance de faire les choix qu'elle veut, l'indépendance d'aller là où elle veut.
Mm-hmm.
C'est pas par rapport aux hommes, mais c'est souvent là où il y a un glissement potentiel où le féminisme a été souvent mal perçu, ou est encore mal perçu par certains hommes parce qu'on le met en relation avec les hommes. Oui, c'est ça. C'est comme ça que mon fils le perçoit. Ah t'es féministe, t'es anti-homme. Donc, on a des discussions vraiment extraordinaires.
Oui, ça doit.
Parce qu'ils ont des personnalités fortes, sont des bons débatteurs aussi. Mm. C'est fascinant, mais effectivement, le féminisme, ça n'a rien à voir avec le rapport aux hommes. C'est le rapport à nous-mêmes sur cette planète.
Mm-hmm.
C'est notre place qu'on prend. Oui, on est en lien avec la nature, on est en lien avec les hommes, on est en lien avec plein de choses, mais il reste que c'est pas une surpuissance qui domine l'homme, c'est pas non plus moi je le vois vraiment comme c'est ça, c'est la liberté de parole, la liberté d'être, la liberté de se comporter, de choisir, faire ses choix.
Ouais.
Puis l'indépendance, c'est l'indépendance par rapport à justement être en mesure de vivre sa vie comme on le veut bien.
Mais moi, j'ai fait un épisode, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un talk show qui s'appelle Juste pour savoir, puis j'ai fait deux épisodes complets sur le féminisme. Puis parce que quand je me suis penchée sur la question du féminisme, j'ai réalisé à quel point c'était mêlé.
Ouais.
Puis là, il y a comme le néo-féministe, puis là, le féministe intersectionnel, puis là, le féministe post-moderne, je ne sais plus, il y en a tellement. Puis là, je me rendais compte à quel point il y avait des contradictions majeures, un méga schisme, en fait, dans le mouvement féministe. Moi, je me suis toujours dit féministe parce que je veux dire, n'importe quelle femme, à mon avis, devrait se dire féministe au sens d'être pour avoir le droit d'exister dans tout ce qu'on est, là, dans notre pleine puissance.
Émancipation aussi.
C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, pour moi non plus, c'était pas vraiment en rapport avec les hommes, sauf quand les hommes empiètent dans ce territoire-là, par exemple, compétitionner dans des sports pour femmes, là, ça devient très directement en lien avec les hommes. Mais là, c'est ça, j'avais une discussion avec une femme avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui est très, 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 très loin de ma perception du monde par rapport à ça. Puis là, elle me disait que sa fille, ado, se promenait avec un chandail blanc transparent dans le métro, puis elle est ado. Puis là, puis qu'elle me dit « Ah, oh, ça, je suis pas à l'aise, ma chérie. » Puis là, moi, j'étais comme, j'essaie de montrer le moins possible que j'étais scandalisée. Parce que c'est quand même de respecter quand quelqu'un devant moi, je suis de pas juger. Là, je suis « OK, mais comment ça marche si elle est féministe qu'elle se promène les seins nus dans le métro? » Elle dit « Ah oui, mais non, mais c'est ça, là, elle. » Dans le fond, c'est comme si elle donne une érection à un gars, c'est son problème. Elle, elle a pas à se priver d'être une femme dans toute sa sexualité, tu sais. OK, pour moi, c'est comme, on est revenu à la femme-objet, mais en faisant semblant que ça vient de la femme au lieu de venir de l'homme qui nous l'impose, fait que là, c'est correct. Mais on est encore dans la femme-objet. OK, pour moi, c'est pas ça du tout le féminisme.
Non, non.
C'est mon intimité appartient à mon monde intime, pas dans le métro. Puis là, j'arrivais pas vraiment à adhérer. Puis tu sais, en plus, ça se dit fluide de genre. Puis je me disais, oh, l'endoctrinement que ces jeunes-là vivent... Pour moi, c'est de l'endoctrinement parce que dans mon temps, personne ne se posait ces questions-là. Puis un moment donné, il y avait des lesbiennes puis il y avait des homosexuels. C'était pas mal ça. Puis peut-être une sur un milliard, là, un moment donné, j'exagère, là, mais tu sais, il y en avait des trans. Moi, j'en ai pas connu, mais c'était... Maintenant, je vais magasiner au mall proche de chez nous puis il y en a vraiment beaucoup des gars avec des bas collants puis des robes, là. Mais je pense que c'est quasiment de la provocation. Dans mon temps, c'était des punks. Maintenant, c'est ça. Je sais pas si on est vraiment... On a mal identifié. Là, j'ai touché à bien des affaires, là, mais... Pour moi, toute la question genre de l'identité de genre, tout ça, c'est tu dis que tu as des enfants ados, comment eux se positionnent par rapport à ce qu'ils sont posés des questions par rapport à leur identité de genre?
Ils ont du fun.
Ah ouais?
Ils ont du fun à nous regarder aller.
Ah ouais?
Ils ont vraiment du fun à nous regarder. Ben, dans le sens où ils disent... ils sont juste à l'âge où ils ont connu le avant, cette ère, cette nouvelle époque dans laquelle on baigne. Ils l'ont connu, l'époque où il y avait pas ces questions-là de qu'est-ce qu'une femme réellement. T'sais, ces questions-là sont assez récentes, du moins ici au Québec, pas dans le monde, là, je comprends bien, mais que ça ait pénétré jusque dans les écoles, puis qu'on en parle aux jeunes, puis tout ça, puis c'est dans les médias, que ce soit... Ben, mes enfants sont assez vieux. Ma plus vieille a 19 ans, mon garçon a 16 ans. Sont assez vieux pour avoir eu leur période d'enfance.
Leur primaire, on leur a pas cassé les oreilles.
Exactement. Ouais, donc, c'est sûr que pour eux, là, ils ont vraiment baigné là-dedans plus dans les dernières années au secondaire. Et ça les fait rire. Ça les fait rire parce qu'ils disent on est en train de vivre un grand dérapage.
OK, ils sont bravo de leur avoir inculqué cet esprit critique.
Ben, j'ai même pas... j'imagine qu'ils ont pris l'esprit critique de leur mère, mais pour moi, c'est super important qu'ils fassent leur propre opinion. Vraiment, donc l'autre fois, mon fils est revenu de l'école puis il me parlait d'indépendance du Québec puis il me parlait de l'époque de René Lévesque, l'époque de Pierre-Éliott Trudeau, puis je l'écoutais, je suis juste en écoute. Ah oui, comment, qu'est-ce que tu penses? Parce que pour moi, c'est important qu'il se fasse sa propre opinion, puis je trouve ça intéressant, son raisonnement. Mais bref, même sur les enjeux sociaux comme ça, j'ai souvent on ouvre le débat, on en parle à la maison, mais je suis souvent dans une posture d'écoute.
Ouais, je comprends.
D'écoute, de recadrage quand, par exemple, mon fils puis ma fille s'obstinent, puis que là, je dis « Non, mais attends, vous parlez du féminisme, mais au fond, vous parlez pas vraiment de la même chose. » J'essaie de mettre les bons mots, les bons termes, ou préciser, apporter des précisions, des nuances, mais c'est super important que je sois dans une posture d'écoute pour leur permettre d'approfondir leur argumentaire, de tester leur argumentaire aussi dans le combat, dans le débat qu'ils ont entre eux. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que sur ces questions sociales-là, ils n'en reviennent pas. Puis quand on voit que le Royaume-Uni, la Cour suprême du Royaume-Uni vient de sortir un jugement pour dire qu'il y a deux sexes puis qu'une femme...
Que le sexe est biologique.
Un sexe est biologique.
Hey, wow! Fallait trancher à la Cour suprême.
Ben oui! Et ben ça nous ramène à la question qu'est-ce que le féministe et est-ce que le féministe est nécessaire et utile encore? Oui, c'est la preuve. Mm-hmm. C'est la preuve que les droits des femmes, parce qu'on parle souvent du droit des femmes, c'est les droits des femmes. Les droits des femmes sont encore en progression, ont encore besoin d'être protégés. La preuve, c'est qu'on a eu besoin au Royaume-Uni d'avoir une décision de la Cour suprême pour identifier ce qu'était une femme.
Oui. Donc, on l'a pas fait avec un homme aussi, ça c'est intéressant. Souvent, tu sais, quand on pose la question comme le documentaire « What is a woman? » que j'adore, mais il n'y a pas le documentaire « What is a man? » C'est souvent vrai. Par rapport à l'homme que... Puis la question se pose aussi « Qu'est-ce qu'un homme? » Parce que je veux dire, c'est la même affaire. Si on pose la question « Qu'est-ce qu'une femme? » puis qu'on reconnaît pas sa biologie, on irait dans le même délire de dire qu'un homme, c'est comment je me sens quand je me suis levée ce matin. Mais pour vrai, c'est pour moi, c'est clair que c'est l'effacement de la femme. C'est la femme qui est menacée dans ça. C'est la femme qui est menacée dans les vestiaires, dans les prisons. Ouais. Dans... Bon, j'en ai parlé tellement souvent dans les sports, c'est ça. Mais que des féministes adhèrent à ce discours-là, puis le défendent, puis veulent que, tu sais, trans woman is a woman, je veux dire, ça me dépasse complètement. C'est tellement évident qu'il y a des femmes qui souffrent de ça, des femmes qui sont entraînées toute leur vie pour avoir des bourses, pour faire de la compétition, puis c'est comme ils se font complètement déposséder de leur rêve de compétition sportive parce qu'il y a un gars qui est rentré dans la piscine. Je prends toujours l'exemple de la piscine, mais c'est n'importe quel sport, c'est la boxe, il y en a plein. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment, on est rendu à un moment où on doit, je pense, créer des nouvelles féministes. En tout cas, c'est comme une nouvelle version. Puis il faut rafraîchir le terme parce que, comme tu dis, il porte beaucoup de préjugés. Tu sais, tu dis féministe, puis souvent les gosses braquent, comme tu viens de dire. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment juste de ramener finalement comme le gros bon sens. Ça, je pense que c'est le slogan d'un parti. J'ai plus le droit de dire ça. Il y a tellement de choses qu'on peut plus... Ça va bien aller. Il y a plein d'affaires qu'on peut plus dire. Mais c'est ça, je trouve ça comme un petit peu alarmant. Puis en même temps, je me dis, bon, j'espère que les nouvelles générations, ça m'encourage de savoir que tes jeunes ont la capacité de voir que ça a dérapé solide. Tu sais, peut-être qu'on va revenir. As-tu espoir que ça revienne? Il me semble qu'on est pas mal dans l'extrême. Vois-tu comment ça pourrait aller encore plus loin dans ce dérapage-là?
Moi, je pense que ça peut aller encore plus loin.
T'es-tu sérieux?
Je suis pas très optimiste.
Ah non?
Non, non, ben, je pense qu'on est dans le début d'une ère dystopique et je pense que cette dystopie-là, on n'a pas encore touché le fond, on n'est pas allé jusqu'au bout.
Le début commence quand, mettons? Je le dis
parce que quand j'observe ce qui se passe en Europe, dans certains pays d'Europe notamment, je me dis, ici, on est encore, on est quelques années derrière, donc on n'a pas atteint certains paroxysmes ou certains niveaux. Donc, je pense qu'on est juste dans le début. C'est regrettable, mais
c'est, triste,
mais c'est une des raisons pour laquelle c'est important de continuer à laisser les gens raisonner d'eux-mêmes, explorer l'ensemble des facettes d'une problématique et surtout répéter que tout est complexe et que rien n'est simple et qu'une femme ne se réduit pas à son apparence, ne se réduit pas à son orifice ou à son apparence. Et je suis femme dans toutes les cellules de mon corps et ne sursimplifiez pas ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. Et si moi, je me sens dans une énergie masculine particulière... moi-même, je le dis souvent, là, j'ai une énergie masculine forte, mais je l'assume.
Dans ta féminité.
Je l'assume dans ma féminité. Et puis, on est tous uniques. Alors, de se sentir d'une certaine façon, c'est normal. On se sent tous particuliers, uniques, singuliers. On est tous uniques. Notre voix est unique. C'est une signature. Nos cordes vocales, notre voix, c'est comme notre empreinte... notre empreinte, voyons...
Digitale.
Oui, merci. Donc, si on a cette unicité-là, même dans notre voix, dans les traits de notre main, c'est dans toutes les cellules de notre corps, notre façon de penser, notre façon d'être, notre façon de se sentir, elle est tout aussi unique. Alors, comment on peut réduire comment on se sent à « je me sens un homme » ou « je me sens une femme ». Non, mais t'es tout ce que t'es, puis embrasse-le, assume-le. Puis l'idée de ne pas être bien dans sa peau, il y a un dérapage qui est à nos portes. C'est que si on se sent pas bien dans notre peau, il faut changer cette peau-là. Qu'est-ce qu'on dit à une fille, une jeune fille, qui se sent pas bien dans sa peau, mais elle se sent pas comme un homme, mais elle se sent pas bien dans cette peau-là? Ça amène aussi ça, ces questionnements-là, et on n'en parle pas de ça.
Non, c'est ça, mais c'est on justifie. Mal-être.
Ah, ben si t'es pas bien dans ta peau, on va changer tout ton corps.
Ben en fait, pour moi, c'est profondément malsain, parce que c'est comme affirmer que t'as raison d'être mal dans ta peau.
Oui.
Au lieu de dire « non, t'es magnifique, t'es à l'image de Dieu, peu importe, on parle peut-être pas de Dieu, mais tu sais, on est fait quand même, on est des êtres quand même, on est un miracle de la création, puis là, on est en train de dire « oui, c'est vrai, puis ok, parfois, on va te mettre sur des bloqueurs d'hormones, puis... »
Puis on est en train de stéréotyper aussi qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme.
Pourquoi?
Parce que moi, je dis que là, je me sens dans une énergie masculine, par exemple, en utilisant... Mais c'est quoi l'énergie masculine? Pourquoi moi j'ai ce raisonnement-là de penser que j'ai une énergie masculine? J'ai peut-être juste une énergie féminine forte. J'ai peut-être une énergie féminine... On campe dans des stéréotypes. Je trouve qu'on on cristallise des stéréotypes lorsqu'on tombe dans ces questions-là. Parce que te sentir comme ça, c'est te sentir homme ou te sentir femme. qui te dit que te sentir comme ça, c'est typiquement femme ou c'est typiquement homme? Mm-hmm. J'ai de la difficulté à exprimer ça. Ça fait longtemps que je cherche les mots justes ou les termes justes pour le dire, mais je trouve qu'il y a un lien à faire entre les stéréotypes et ce dérapage-là qu'on est en train de vivre, collectif. Mm-hmm. Je dis pas que la maladie n'existe pas. Je suis pas scientifique, je suis pas spécialiste de l'endocrinologie, de la dysphorie de genre. Ouais. Je suis pas là-dedans, mais il reste qu'il y a un mouvement en ce moment qui est inquiétant et qui, effectivement, vise à effacer la femme, invisibiliser la femme ou la réduire à une apparence. Mm-hmm. On n'est pas qu'une apparence. Non. Bon, on sent qu'on n'est pas...
C'est parce que ce combat-là, on pensait qu'il avait été mené et gagné. Puis là, c'est comme un peu affligeant de voir qu'il faut retourner à ce combat-là, le reprendre, puis se dire « OK, bon, ben on va recommencer. Savez-vous qu'une femme ne porte pas juste des robes, puis que c'est pas ça qui faisait des perruques? » Puis, en fait, c'est ça, il y a une fille qui m'avait dit, quand on était là-dedans, en 2021, là, que ça y allait vraiment intense, elle m'avait dit « Fou, moi, j'étais tomboy quand j'étais ado, puis ben, elle m'a dit, elle était émue en me le disant, elle dit « On m'aurait probablement forcée à changer, à transitionner si j'avais été ado ici et maintenant. »
Ouais.
Alors que comme maintenant, elle est super femme, puis c'est tout, là, t'as-tu le droit d'être tomboy? Mais non, on n'a pas le droit d'être tomboy. Puis tantôt, tu me parlais de cohérence. Il y a tellement d'incohérence dans ce mouvement-là que je comprends même pas qu'on puisse y adhérer en étant en toute conscience. Là.
Ouais.
Parce que en fait, on parle que dès qu'on est, on est dans le stéréotype. Moi, j'ai un garçon puis une fille. Fait que je veux dire, moi, le rose, ça m'énerve. Vraiment. J'aurais voulu qu'elle aime pas le rose, puis les froufrous, puis les brillants, puis tout ça. Elle capote là-dessus. C'est pas de ma faute. Toujours, j'ai vraiment essayé d'y acheter des affaires différentes, mais c'est ça qu'elle aime. Puis mon petit garçon, il capote ses autos, mais il capote sa vie, le camion de pompier. T'sais, tout le stéréotype, c'est pas moi. Mm-hmm. Puis là, c'est pas vrai que c'est une construction sociale. Il est pas exposé constamment à des camions de pompier.
Ouais.
Puis tu sais, ils ont fait des recherches avec des chimpanzés, puis les femelles chimpanzés vont vers les poupées, puis sont plus maternantes, puis les mâles vont aller plus juste dans les blocs, puis tout ça. Fait que tu sais, ça fait partie de qui on est. Faut arrêter de nier qu'il y a quelque chose d'inné dans le fait qu'on va aller... Mais après, il peut y avoir des exceptions. Puis il y a des hommes qui vont vers des métiers qui sont dits plus de femmes et vice-versa. Ouais. C'est ça aussi. On a le droit, comme tu dis, on est tous uniques. Mais c'est comme si on réduit à... Il y a quelque chose de réducteur puis d'incohérent complètement là-dedans qui... J'ose croire qu'on assiste bientôt à la fin. Au moins, il y a Trump qui essaie de faire passer des lois. Là, ça a passé comme en Angleterre. Puis il y a des pays aussi, je pense, en Suède, où, tu sais, qui étaient rendus vraiment loin là-dedans puis qui, là, sont en train de revenir, s'apercevoir que ça a été une catastrophe, finalement. Mais comme tu dis, le Québec, on a une petite tendance à être en arrière, fait que espérons qu'on n'ait pas encore pour trop d'années avant de prendre conscience que ça va pas bien pour les femmes. Puis toi qui es maman, comment j'aimerais savoir quand même comment tu vis ça. Moi, c'est surtout dans le rôle de mère que c'est venu me chercher viscéralement quand on veut plus appeler ça une maternité à l'hôpital. Puis là, il faut appeler ça comme je sais plus qu'est-ce qui serait plus inclusif. Là, là on raye la maternité. Là. La femme ne peut plus être une mère.
Ouais.
Ça vient de te chercher ailleurs?
Oui, c'est certain. Non, il y a mille exemples là, dans le quotidien qui démontrent que ça vient me chercher puis que je ne comprends pas pourquoi on soit pas si nombreuses que ça à dénoncer ça. On a une certaine gêne, une certaine réticence parce qu'on a peur des étiquettes, on a peur de devenir des intolérantes alors qu'il est juste question...
Tu penses que c'est ça?
Ben je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a les voix féminines qui se taisent, qui ne disent rien par crainte. Mm-hmm. Et il y a les voix féminines qui s'expriment pour appuyer ces mouvements-là.
C'est ça,
parce que c'est vertueux d'appuyer ces mouvements-là.
Ou qui sont totalement endoctrinés. Tu sais, je pense, mettons, exemple, Léa Clermont-Dion qui a fait des documentaires là-dessus, est à fond là-dedans. Pourtant, c'est une fille, tu sais, j'aimerais ça la recevoir, je la trouve super brillante, mais mon Dieu, que je comprends pas comment qu'elle en est venue à articuler sa vision du monde de cette façon-là. Ouais. J'aimerais ça comprendre, vraiment, invitation. Mais pour vrai, c'est ça, comment une femme... Moi, j'ai l'impression que la majorité des gens ne voient pas. Toi, tu dis qu'il probablement qu'il y a une gêne. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a comme pas tant de monde de ça que ça qui réalise qu'il y a un problème.
Je parle de ceux qui prennent pas la parole puis qui auraient peut-être le souhait de prendre la parole ou qui, tu sais, quand je fais des publications là-dessus, par exemple, puis j'ai des commentaires en privé ou des commentaires, même publics parfois, tu sais, vous avez raison, mais on n'ose pas trop le dire. Puis il y a ceux qui prennent la parole, mais ceux qui prennent la parole aussi puis qui sont convaincus, il y a aussi, ça nous amène aussi dans le terrain où il y a... c'est gratifiant de faire partie de la bonne gang. Oui. C'est gratifiant de faire partie de ceux qui veulent le bien, qui sont progressistes. Le terme progressiste, c'est le progrès. Qui peut être contre le progrès?
Exactement. Oui.
Donc, on veut tous appartenir à la bonne gang. On veut tous appartenir à ceux qui raisonnent comme du monde, qui pensent correctement, qui ont des bonnes valeurs. Donc, il y a cette facilité-là aussi, c'est de où on veut être bon élève, où on veut appartenir à la bonne gang, au propre, au bien-pensant. Donc, c'est très attrayant, c'est très séduisant d'adhérer aux idées de la majorité lorsqu'on se rend compte que c'est une majorité.
Ouais.
Donc, il y a ce glissement-là, je trouve, de ben, tout le monde pense comme ça, c'est la bonne manière d'être.
Ouais.
Parce qu'on est dans une société où les marginaux sont en prison. C'est les méchants. La majorité paie des taxes, travaille. On veut faire partie de cette majorité-là qui respecte les normes sociales, qui travaille, qui paie ses taxes, qui élève ses enfants correctement, qui contribue à la société, qui est actif. On veut faire partie de cette gang-là. Les marginaux sont en prison. C'est un peu la même chose sur le plan idéologique. À un moment donné, on a une vague et c'est tentant d'aller vers cette vague-là sans se poser de questions, sans remettre en question, parce qu'on veut faire partie de la bonne gang.
Il y a aussi le fait, je pense que c'est important ce que tu dis, quand on a l'impression de faire partie de la bonne gang, on n'a pas besoin de se remettre en question.
Ben non,
qu'on est du bon côté.
Ouais.
Moi, j'étais très de gauche avant, puis jamais j'aurais voulu avoir des débats sur l'avortement ou même écouter les gens, parce que ça sont juste en arrière, ils n'ont pas compris.
Ouais,
ils sont attardés.
Ouais.
À un moment donné, ils vont comprendre.
Oui.
Puis là, à un moment donné, comme ça donne que je suis curieuse, j'ai eu envie de comprendre comment ça qu'il y a du monde
qui sont attardés.
Comment ça qu'il y a autant d'attardés sur la planète? Fait que là, j'ai eu envie de comprendre. Puis quand j'ai écouté les arguments, pas parce que c'est sûr que la religion fait qu'on se braque. Fait que j'ai pas écouté les arguments religieux parce que c'est dans la morale qu'on nous fait sentir que nous, on est immoraux. Puis ça m'énerve. Mais vraiment entendre comme des bons arguments, puis j'ai comme réalisé que je connaissais rien à la question. Je prends l'avortement souvent parce que c'est lui qui pop aujourd'hui, mais il y en a plein.
Ouais.
L'environnement, l'écologie.
Ouais.
Il y a plein de dossiers sur lesquels les autos électriques. À un moment donné, je me suis comme éduquée mieux. J'ai écouté comme toutes les sphères. Puis là, je me suis dit, oh boy, j'étais mal informée. En fait, j'étais pas informée. Tu peux pas être informée quand tu écoutes constamment toujours la même chose.
Ouais.
Puis là, on est un peu dans ce monde-là où tout le monde est informé juste à une source d'information. Puis on nous dit que c'est la désinformation si tu vas t'informer sur YouTube.
Ouais.
Alors qu'il y a du très bon et du très mauvais, comme sur les médias traditionnels.
Ouais.
Il y a des émissions vraiment poches, puis il y a des émissions où il y a du monde encore qui ont des voix intelligentes,
merci.
De moins en moins, mais... Fait que c'est ça, tu sais, je pense que... Je me demande vers quoi... Mettons, là, parlons un peu du futur. Qu'est-ce qui t'attend? Comment tu vois ça, le 2025? Tu viens de te faire offrir une émission à Cube.
Ouais.
Si tu viens de commencer, où on peut te trouver? Parle-nous un peu de 2025 pour toi.
Ben là, je suis dans un beau défi. J'ai ma propre émission de radio. C'est pas à Cube, c'est au 99.5.
Ah, c'est pas
la même affaire? Il y a une petite nuance, là.
Okay.
Le 99.5, c'est une antenne de radio qui appartient à Leclerc Communication.
Ouais.
Et Leclerc Communication diffuse du matériel produit par Cube Radio de 6h le matin à 18h.
Okay.
Et à 18h, moi, je suis sous la bannière du 99.5.
Fait que t'es vraiment
donc, je travaille vraiment pour l'antenne, pour les propriétaires de l'antenne qui, eux, diffusent, juste avant mon émission à 18h le soir, ils diffusent le matériel produit par Cube Radio. Donc, c'est un partenariat qu'il y a. Mais moi, je suis vraiment je travaille pour mon employeur, c'est le 99.5 à 18h.
À ne pas confondre avec le 98.5.
Non, oui, c'est ça.
Ce n'est pas le même chiffre.
Non.
D'accord.
Et c'est du lundi au vendredi de 18h à 19h.
Okay.
Et c'est vraiment extraordinaire parce que j'invite qui je veux, on parle de ce que je veux. Donc, on fait le tour de l'actualité de manière différente. C'est comme ça que mon show est présenté. Puis c'est vraiment ça que je tente de faire. Mais je tente pas parce que je suis naturellement toujours portée vers la différence. J'ai toujours cet angle-là, naturellement. Je n'ai pas besoin de me forcer.
Ouais, ouais.
Donc, j'essaie d'inviter des gens qu'on entend moins dans les médias traditionnels. Puis j'essaie de faire un heureux mélange entre ceux qu'on entend quand même sur les antennes traditionnelles puis ceux qu'on entend moins, parce que je trouve ça important de bâtir des ponts. C'est vraiment ça. Mon objectif, moi, c'est de continuer à faire ce chemin-là qui est unique à ce que je fais, qui est unique à ma personne, là, qu'on a de la difficulté à catégoriser ou à étiqueter ou à cataloguer, mais en faisant le pont entre les médias traditionnels et les médias alternatif, parce que c'est important qu'on se parle, c'est important qu'on reste pas dans nos chambres d'écho, c'est important qu'on élargisse les horizons de part et d'autre.
Oui.
Donc, toujours, pour moi, c'est vraiment important. Donc, c'est ce que je fais.
J'invite, on peut encore t'entendre au débat?
Oui, on débatteur à nouveau à 22h, deux fois par semaine, mais ça varie là, les
c'est
journées.
C'est pas toujours les mêmes journées.
C'est du lundi
journées
ou
de
jeudi, mais c'est pas toujours les mêmes journées.
OK.
Effectivement.
Puis on peut te suivre sur X?
On peut me suivre sur X, oui, effectivement.
Es-tu sur Facebook? T'es surtout sur X, hein?
J'étais sur Facebook, mais je me concentre sur une plateforme.
Ouais.
Un bon bout de temps de ma vie, j'étais sur Facebook. À un moment donné, j'ai fait le virage vers X, puis là, j'alimente surtout X.
C'est
de temps en temps, je vais sur Facebook, mais j'ai trois enfants à temps plein.
C'est
et ce travail-là, ben, je m'investis énormément parce que j'essaie de trouver des nouvelles voies, des nouveaux sujets, je fouille toujours. Puis j'ai toujours un angle aussi, j'ai souvent un angle européen à mon émission.
Dans quel sens?
Donc j'ai souvent des invités de la France, de la Suisse, de la Belgique, des francophones d'ailleurs dans le monde. J'ai un Français qui habite en Chine qui se joint à nous parce que j'aime ça avoir ce point de vue outre-mer, ce point de vue étranger, ce point de vue où eux, ils baignent dans leur... Ils ont l'impression d'avoir aussi un spectre très restreint d'opinions possibles. Eux aussi ont l'impression que le périmètre des opinions acceptables est réduit.
Ouais.
Mais souvent, leur périmètre est quand même plus grand que le nôtre.
À l'extérieur
à l'extérieur,
pays.
Oui.
Ah, wow.
Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que je les reçois puis on vient pousser un peu les périmètres de l'acceptable.
Centimètres à la fois. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, c'est que tu n'es pas sur la plateforme web. On peut seulement t'écouter en direct pour l'instant.
Pour l'instant,
il n'y a pas de rediff.
Il n'y a pas de rediffusion pour le moment.
OK.
Je souhaite qu'il y en ait. Tout le monde souhaite qu'il y en ait. Ça va venir, je l'espère. C'est un défi là, que je termine au printemps.
Okay.
Suite au sondage radiophonique, on saura si ça vaut la peine de reconduire l'émission, si on m'offre quelque chose ou pas.
Okay.
Donc, ça se peut que le défi tire à sa fin et qu'il n'y aura plus rien au bout.
Ouais.
Ça se peut que ça se poursuive aussi, je l'espère vraiment.
Je te souhaite, oui.
À cette antenne ou à une autre, mais j'espère continuer ça parce que juste la collaboration que je suis en train de développer avec des collaborateurs un peu partout, je trouve ça intéressant. Même eux apprécient pouvoir venir donner leur point de vue.
Oui, mais j'apprécie
ici
que tu me fasses une petite place à ton micro. Puis c'est sûr que moi aussi, les ponts, j'ai écrit à des émissions de Radio-Canada parce que malgré ce qu'on peut nous jeter comme étiquette, moi aussi, je me dis, il faut faire un pont, il faut arrêter de s'acculer chacun dans notre clan puis dire, vous êtes les méchants, nous, on est les bons, vice-versa, là, parce que je pense que les deux le font.
Oui, oui.
Puis je trouve ça, tu sais, souvent, je vais partager un truc de médias traditionnels, puis les gens vont me dire, attends, là, je pensais que tu étais contre les médias, puis je dis, ben non, je veux dire, Nathalie Elgrabi publie des affaires que je suis vraiment d'accord, même si c'est dans le Journal de Montréal,
mais
souvent, je suis en désaccord avec eux.
Ouais.
Tu sais, mais comme si on reparlait des nuances, sauf que c'est ça, je trouve, ces ponts-là sont essentiel au Québec à un moment où on est dans un clivage alarmant, où plus personne s'écoute, puis comme tu parlais, on est dans nos chambres d'écho. Alors, félicitations pour ton mandat, puis je te souhaite vraiment que ça continue parce qu'on en a besoin, puis ta voix est essentielle en ce moment dans la sphère. Alors, merci aussi d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir reçue, je suis vraiment très contente. Merci.
Merci.